France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Vendredi 28 février, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'accélération du nombre de cas de coronavirus en France, qui est passé en quelques heures de 18 à 38. Les mesures de précaution sont renforcées, notamment dans les établissements qui accueillent les personnes âgées. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie est à un moment décisif. Les autres titres, Agnès.
Quand l'inspection générale de l'éducation nationale elle-même critique la réforme du bac. Il est l'autre milliardaire de la primaire démocrate aux États-Unis, Tom Steyer, entre en piste en Caroline du Sud. Et puis je vous propose de la gelée de foin pour mettre sur vos tartines.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le politologue Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe contemporain et de l'islam. Pour intervenir, posez vos questions, le 01 45 24 7000, le standard est ouvert et bien sûr l'application France Inter.
France Inter.
La hausse était prévisible, mais l'annonce hier soir a jeté un froid. En quelques heures, le nombre de personnes contaminées en France par le Covid-19 a plus que doublé, passant de 18 à 38. 38 cas donc, 12 guéris, 2 morts et 24 hospitalisés. Ce qui est rassurant ce matin, Véronique Julia, c'est que ces nouveaux cas ont une traçabilité assez claire.
Ce ne sont pas des cas qui laissent perplexes. La plupart ont une explication assez nette, à commencer par ces 12 cas recensés hier dans l'Oise. Un regroupement directement lié aux deux patients annoncés avant-hier, celui décédé à la Pitié et celui toujours hospitalisé dans un état grave à l'hôpital d'Amiens. Cet homme de 55 ans travaille à la base aérienne militaire de Creil. Trois de ses collègues militaires sur la base ont été contaminés. Des contacts professionnels donc, mais il y a aussi des proches touchés, hospitalisés à Dijon, Nantes, Lille ou Paris. Un autre regroupement de cas bien identifiés concerne cette fois trois proches d'un patient hospitalisé à Annecy. Il s'agit de sa femme, de sa fille et d'un ami. D'autres cas dont la chaîne de contamination est un peu plus difficile à remonter ont été identifiés hier. Il s'agit d'une part de deux personnes qui reviennent chacune d'Italie, donc d'une zone à risque. D'autre part, trois personnes testées parce qu'elles étaient en réanimation dans un état grave qui pouvait faire penser au coronavirus se sont révélées positives. Deux d'entre elles sont âgées et reviennent d'un voyage en Égypte. Là encore, on tient peut-être une piste. En revanche, on n'a toujours pas identifié le fameux patient zéro à l'origine des deux premiers cas dans l'Oise. Une équipe d'experts y est attendue en renfort. Aujourd'hui.
L'Oise où le collège Jean de la Fontaine de Crépy-en-Valois ne rouvrira pas lundi. La rentrée a été repoussée à jeudi. C'est dans cet établissement qu'enseignait l'homme qui a succombé au coronavirus. Les élèves et les enseignants avec qui il a été en contact vont être testés lors de consultations organisées au collège en début de semaine prochaine. Face à cette épidémie qui arrive, l'expression a été utilisée par le chef de l'État lui-même hier matin lors d'une visite surprise à la Pitié-Salpêtrière. Les autorités de santé répètent inlassablement les consignes, se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, des consignes appliquées notamment dans les maisons de retraite et les EHPAD. Les patients âgés sont en effet particulièrement vulnérables. Diane Berger s'est rendue dans un établissement de Saint-Germain-en-Laye. Reportage.
Dès qu'on franchit les portes de la résidence Les Coteaux, Redouane, le chargé d'accueil, commence ses contrôles.
Il faudra vous désinfecter les mains et je viendrai avec ce petit thermomètre pistolet. Regardez la température sur votre front. Si jamais vous toussiez, vous avez une boîte avec des masques que vous pourrez porter lors de votre visite dans l'EHPAD.
L'EHPAD prend très au sérieux la menace du coronavirus, même si, parmi les retraités, Françoise hausse les épaules.
Si je dois attraper le coronavirus, je vais claquer. Moi, ça m'est égal. Moi, pour ma part, j'ai un peu peur pour mon fils, mais pas pour moi. Il va avoir 60 ans.
Votre fils, il est quand même venu vous voir ?
Une fois.
Une fois depuis 3 semaines, car la directrice Audrey Chavot a prévenu les familles.
Les consignes, c'est de venir vraiment qu'en cas de nécessité, de surtout pas sortir les résidents, voilà, de faire une limitation des allées et venues tant qu'il n'y a pas d'autres instructions plus graves.
Et la plupart des proches comprennent, depuis le début de la semaine, le nombre de visites a diminué de plus de moitié.
Nous sommes à un moment décisif, a de son côté déclaré hier le patron de l'OMS. Une cinquantaine de pays sont désormais touchés, avec l'apparition de premiers cas aux Pays-Bas, en Lituanie, en Nouvelle-Zélande et un autre au Nigeria. Première contamination confirmée et officielle en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'un ressortissant italien arrivé à Lagos en provenance de Milan. Et si en Chine, l'épidémie ralentit nettement, le risque s'est multiplié avec l'apparition de ce que l'on appelle les pays sources, la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie où le nombre de cas est passé hier de 400 400 à 650 décès et où de 400 à 650 cas de contamination et à 17 décès.
7h05 sur France Inter. Et l'actualité ce matin, Agnès, c'est aussi cette extrême tension en Syrie.
Théâtre d'affrontement entre Moscou et Ankara, une trentaine de soldats turcs ont été tués hier dans la région d'Idleb lors d'un raid mené par les forces de Bachar al-Assad soutenu par la Russie. Ankara a lancé en représailles des attaques contre des cibles gouvernementales syriennes. La Turquie, qui menace également d'ouvrir ses frontières pour permettre aux centaines de milliers de réfugiés syriens actuellement sur son sol de rejoindre l'Europe. Le risque d'escalade augmente d'heure en heure, s'inquiète ce matin le porte-parole de l'ONU qui réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat. Nous retrouverons en direct de la frontière turco-syrienne à 8h, l'envoyé spécial de France Inter, Aurélien Colli. Retour en France avec cette note de l'inspection générale de l'éducation nationale qui jette un pavé dans la mare. L'inspection générale dépend du ministère et produit régulièrement des rapports plus ou moins critiques. Celle-ci est particulièrement sévère et reprend l'essentiel des arguments des syndicats qui s'opposent à la réforme du bac. Les épreuves anticipées, les E3C sont fortement remises en cause. Et la note que vous vous êtes procurée, Sonia Princé, s'inquiète aussi pour la rentrée prochaine.
C'est un point très sensible de la rentrée 2020, affirment les inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Les proviseurs s'inquiètent des conséquences de l'abandon par les élèves d'une des trois spécialités lorsqu'ils seront en terminale l'année prochaine. Cela ne va pas forcément réduire le nombre de combinaisons de spécialités. L'organisation sera toujours aussi complexe, mais certains groupes seront à très faible effectif, ce qui risque d'entraîner un coût important en termes de postes d'enseignants. Beaucoup d'élèves vont abandonner la spécialité mathématiques jugée trop difficile et demander l'option mathématiques complémentaire pour garder un niveau suffisant pour leurs études par la suite. D'autres lycéens au profil scientifique vont choisir le module mathématiques expertes. Selon la note, cette forte demande pose la question des moyens pour ouvrir ces options incontournables. Dans ce contexte de choix contraints, certaines options plus traditionnelles seront sacrifiées. Les arts, la troisième langue vivante, le latin ou le grec, risquent de ne plus pouvoir être financés, écrivent les inspecteurs généraux. Un appauvrissement de l'offre d'enseignement, c'est exactement ce que redoutent les syndicats qui alertent depuis plusieurs mois le ministère.
En bref, le procès du roi de l'évasion aura bien lieu, même si Redouane Faïd, en grève de la faim, refuse de sortir de sa cellule. La présidente de la cour d'assises du Pas-de-Calais a rejeté la demande de renvoi du procès. Direction à présent les États-Unis à la veille des primaires démocrates en Caroline du Sud, avec un outsider qui entre en piste. C'est l'autre milliardaire, non pas Michael Bloomberg, mais Tom Steyer. Il n'a pas concouru dans les premiers États, a fait un piètre score dans le Nevada, mais là, c'est son moment, comme a pu le constater Isabelle Raymond, l'envoyée spéciale de France Inter à Charleston.
Les malins Tom Steyer organisent un meeting à l'heure du dîner dans un restaurant avec des ailes de poulet sympathiques aussi, tombe la veste et parle d'emblée de son statut de milliardaire philanthrope. Tom Steyer sillonne la Caroline du Sud depuis de nombreux mois, embauche dans son équipe de campagne du personnel local, issu le plus souvent de la communauté afro-américaine des quartiers défavorisés. Joseph, jeune vétéran de l'armée américaine, a fait son choix depuis longtemps en le regardant à la télé, mais il voulait le voir en vrai. C'est le seul à parler des sujets qui nous préoccupent vraiment, dit-il. Les maisons trop chères, le niveau de pauvreté au sein de la communauté afro-américaine, tous les sujets qui nous intéressent, c'est le seul à en parler et il le fait avec tellement d'enthousiasme. Il dit que c'est important d'avoir cette discussion dans le pays. Un peu plus loin, Barbara, chapeau noir sur la tête et encore indécise. Elle aussi est touchée par l'apparente sincérité du candidat démocrate. Mais elle hésite avec Joe Biden, qui pourrait poursuivre le travail d'Obama, dit-elle. N'importe qui, pourvu qu'on puisse sortir Trump de la Maison Blanche. Dans les sondages, en Caroline du Sud, Joe Biden est en première position, loin devant Bernie Sanders, deuxième, et Tom Steyer, donc, troisième. Charleston, Isabelle Raymond, France Inter.
Quelques jours après la condamnation d'Harvey Weinstein aux États-Unis, avis de tempête sur la 45e cérémonie des Césars ce soir. Roman Polanski, dont le film J'accuse est nominé dans 12 catégories, ne viendra pas. Plusieurs associations féministes sont appelées à manifester devant la salle Pleyel. Florence Foresti en maître de cérémonie, Sandrine Kiberlin en présidente. Les Césars à la une du journal de 7h30. Elles sont des abris naturels pour les abeilles et les oiseaux, permettent de cueillir des murs à la fin de l'été, procurent de l'ombre aux animaux et protègent les cultures. Les haies dans les champs ont pourtant disparu pour des questions de rentabilité, mais leur retour est annoncé. Reportage de Célia Kiré.
Parmi les agriculteurs qui défendent les haies, Yvon Sarotte, cultivateur
producteur de pommes dans le Tarn-et-Garonne apprécie de voir des coccinelles et des abeilles.
On privilégie la biodiversité. Et la biodiversité ne vient pas seule. Donc il faut créer un micro-environnement avec des haies pour pouvoir attirer tout, disons, les insectes, les oiseaux et tout. Vous avez chaque espèce se nourrit d'un insecte. Tout ce qui est hirondelle pour les mouches, je dirais, les coccinelles mangent les pucerons. Et donc on n'a pas besoin de traiter les pucerons. Il faut penser aux abeilles.
Mais ces haies ont largement disparu des paysages. André Fougereau représente l'Académie d'agriculture.
On a perdu dans les années 70, à la grande époque des remembrements, 700 000 km de haies en France, ce qui est colossal. Je pense qu'on ne retrouvera pas le même niveau. Il faut rapporter des haies, mais des haies intelligentes.
Il faut donc des haies qui fleurissent au printemps et qui fournissent des fruits à l'automne. Des haies très utiles pour les agriculteurs, explique François Omnes de l'Office français de la biodiversité.
L'arbre est un facteur de bien-être pour les animaux. Ils vont pouvoir s'abriter du vent, s'abriter des fortes chaleurs et donc vont avoir une croissance plus harmonieuse, plus facile. Pour ce qui est des cultures, on perd du rendement sur les 5 premiers mètres au pied de la haie. Par contre, on en gagne sur les 50 mètres suivants à l'intérieur de la parcelle.
Et plus on verdit le paysage, plus on augmente les possibilités de stockage de CO2. C'est bénéfique pour le climat.
L'agroécologie, ce sera d'ailleurs le thème du jour au Salon de l'agriculture. Salon qui se tient jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. L'occasion de découvrir de nouveaux produits. Alors connaissez-vous, Ali, la gelée de foin?
C'est une sorte de confiture de foin.
C'est un produit, en tout cas, que vous pouvez découvrir sur le stand de Bretagne. Cette gelée est fabriquée à Saint-Gonnery, dans le Morbihan, près de Loudéac, chez Fabienne Jiquel et son mari, éleveur de vaches depuis 25 ans. Et visiblement, Benjamin Fontaine, les visiteurs sont séduits.
Fabienne Jiquel et son mari Rémi sont installés derrière leur petit présentoir. Une femme s'arrête et Fabienne lui tend une petite cuillère en bois avec un peu de gelée de foin dedans.
C'est très bon. Dans un restaurant pas loin de chez moi, ils font des carottes au foin et j'ai jamais osé les goûter parce que ça m'inspirait pas. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai.
Et c'est vrai que cette gelée de foin est très sucrée, ronde en bouche, ferme, dorée. Finalement, on sent assez peu le goût d'herbe, mais l'odeur est là. La gelée est fabriquée à partir de foin bio, infusé, 5 grammes par pot. Et ce foin, c'est celui du mari de Fabienne Jiquel, le même qui sert à nourrir les 40 vaches de leur ferme.
Et un jour, mon mari me dit « Mais regarde comme ça sent bon ce foin sur la ferme ». Je dis « Oui, oui, c'est vrai que ça sent bon ». Ce serait dommage de ne pas pouvoir le mettre en pot, cette odeur-là. Et donc, c'est là où m'est venue l'idée d'essayer de mettre cette odeur en pot. Donc, j'ai créé la gelée de foin bretonne.
L'an dernier, la gelée de foin a reçu un prix à Pontivy, remis par des restaurateurs. Ils sont d'ailleurs de plus en plus intéressés par ce produit. La gelée s'accommoderait très bien avec du fromage ou du foie gras.
Et c'est donc bien de la gelée qui a été élue produit fermier innovant l'an dernier au salon de Pontivy, salon baptisé Au la vache.
Merci Agnès Soubiran. À suivre sur Inter, le 80 secondes et l'enquête de Secret d'Info sur la maltraitance animale dans les abattoirs. Mais d'abord, un point route. Bonjour Diane Sprimon.
Bonjour, bonjour à tous.
Des ralentissements dans la région de Toulouse.
Oui, ça circule doucement pour entrer dans la ville rose ce matin par l'A64 depuis Muret. Compliqué notamment pour y arriver par l'A68 depuis Castelmoroux. Et puis là où ça coince aussi ce matin, c'est en direction de Belfort par l'A36 depuis Mulhouse jusqu'à Lagrange. Enfin, un accident à vous signaler en Savoie au nord d'Aix-les-Bains. Prudence à hauteur d'Entrelac en direction d'Annecy. Il y a une voiture à l'arrêt.